Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer et vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières. Des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser grâce à elles. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... Et si on y répondait aujourd'hui ? Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai la grande joie de recevoir Tatiana Silva, une femme aussi belle que remplie de sagesse. Tatiana est animatrice de télévision, présentatrice météo pour les chaînes françaises TF1 et LCI et exerce également à la télévision belge. À côté de cela, elle est ambassadrice d'UNICEF France. Née de parents capverdiens, Tatiana vit une enfance modeste. Très jeune, elle doit affronter le départ de son père, le décès de sa mère, la solitude, le sentiment d'imposture, le rejet et l'abandon. En quête de sens, elle va entreprendre alors de trouver l'équilibre dans sa vie. Et c'est ce parcours, son histoire personnelle, jonchée de haut et de bas qu'elle partage aujourd'hui avec nous. Et effectivement, comme dans son livre, tout commence par soi. Elle partage son histoire avec beaucoup de sincérité et de sagesse. Elle aborde les thèmes de la solitude, du sentiment d'imposture, de la quête de soi, du temps, de la foi, de la gratitude et de l'authenticité. Quelle conversation fluide et enrichissante! Ce que j'ai le plus apprécié chez Tatiana, c'est que sa notoriété ne l'empêche pas d'être accessible et dans le partage. J'ai l'impression d'avoir eu un être de lumière à mon micro. J'espère que cet épisode vous nourrira autant que ce fut le cas pour moi. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Tatiana, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Ça fait, je pense, 6 mois qu'on essaye de mettre ça en place.
Au moins.
Mais là, on est bien installés, oui. On a eu une longue conversation. Enfin, c'est juste que du bonheur.
Oui.
Alors, merci d'avoir accepté mon invitation déjà.
Oh, merci pour l'invitation. Merci pour la patience et la persévérance. Parce que c'est vrai que parfois, on me capte et je suis là et puis je ne suis plus là. Et là, on est là, on a du temps. Et je suis ravie de pouvoir me poser et de parler de choses qui m'intéressent, qui m'animent, puis avec quelqu'un qui comprend et qui s'y intéresse, parce que c'est aussi important d'avoir un interlocuteur au-delà de ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter, d'avoir quelqu'un qui profondément s'intéresse et peut comprendre le travail, le cheminement, le parcours.
Oui, et mais en tout cas, c'est ton cheminement à toi m'a beaucoup inspirée parce que je trouve que tu es un être plein de lumière.
Merci.
Et c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast, parce qu'habituellement, on invite des entrepreneurs, des artistes, mais je trouve que chez toi, il y a une sagesse qui dépasse ton âge, qu'on ne révélera peut-être pas tout de suite, mais on pourrait... Et en fait, c'est surtout, je voulais parler de ce livre formidable que tu as écrit, qui s'appelle « Tout commence par soi », et qui, moi, m'a beaucoup aidée dans les moments de détresse de mon aventure, dernièrement.
Oui.
Et je voulais justement, tout le monde sait un peu qui tu es, donc on ne va pas te présenter parcours de bout en bout, mais je voulais juste te poser la question. Si tu prends les choses avec un peu de recul, à quoi est-ce que tu rêvais et où est-ce que tu en es sur ton chemin par rapport à tout ça?
C'est une question toujours très difficile sur les rêves, parce que ma définition du rêve, c'est quelque chose qui est inaccessible. Donc par exemple, dans une autre vie, j'aurais été danseuse à Bollywood par exemple.
Ça aurait pu.
Mais celle-ci, je pense, ça serait un peu juste. Et c'est OK que ça reste un rêve et que ça me fasse rêver de voir les gens dans les films. Et puis après, j'ai des objectifs, des envies qui ne sont pas des rêves, qui sont vraiment des souhaits réalisables ou que je souhaiterais réaliser. Mais quand j'étais petite, je rêvais juste d'être une femme, une businesswoman. Pas d'où j'avais sorti, c'est une femme d'affaires. Et j'associais ça à deux choses assez simples, c'est le fait de voyager, donc d'être indépendante, de voyager et d'être indépendante aussi financièrement. Et quelque part, quand je me rends compte que c'était ça le seul rêve dont je me rappelle, bah, quelque part aujourd'hui, je suis indépendante, j'ai beaucoup voyagé, je suis autonome financièrement, donc je me dis « Ouh là !» Plutôt pour arrêter de rêver. Donc je ne sais pas, je pense que j'ai parfois peur de rêver parce que rêver pour moi, c'est vraiment inaccessible. Donc je ne veux pas être déçue, je ne veux pas mettre trop de pression, je m'en mets quand même quotidiennement pour plein de choses intéressantes et d'autres complètement inutiles et ridicules. Donc je rêve un peu moins, mais par contre, j'ai envie d'avoir du sens. Ça, okay. C'est ce qui se dégage beaucoup ces dernières années, c'est que ce que je fais a du sens pour moi, mais un sens et une utilité pour l'autre.
Aussi, oui.
Aucun intérêt aujourd'hui de s'accomplir sans être utile et servir les autres, en tout cas pour moi.
Ce qui est formidable, c'est qu'on commence l'épisode par la manière dont on a l'habitude de le terminer. Pardon avec les... je dis c'est formidable parce que... je dis c'est formidable parce que la conclusion, souvent, c'est de se trouver et d'avoir un impact positif et d'apporter aux autres.
D'accord.
Donc c'est chouette qu'on commence par ça avec toi. Et la question que j'ai pour toi, c'est plutôt, dans ton parcours qui de l'extérieur a l'air assez fulgurant, il y a eu quand même une belle étoile qui est venue te chercher par moment.
Oui.
Mais quand on lit ton livre, on voit que tout n'a pas été facile et que ça a été aussi du travail personnel, enfin, en tout cas du développement personnel. Est-ce que tu pourrais, dans les grandes lignes, nous raconter un peu ton parcours?
Oui. Oui, c'est un peu inhérent à tout le monde. Quand on prend le temps de parler à sa voisine ou son collègue ou à un membre de sa famille qu'on fréquente moins, on se rend compte qu'on vit tous des moments extrêmement difficiles et douloureux et que c'est vraiment la vie est en dents de scie. Mais c'est vrai que c'est comme un zoom. Si on regarde de loin, on a l'impression que c'est une ascension. C'est comme vous voyez les graphiques de la bourse. Vu de très loin, si l'action a toujours monté, je ne sais pas, de Apple par exemple, elle a toujours monté, pour ne pas faire de la pub, mais n'importe quelle marque connue qui monte, de loin, on a l'impression que c'est une ascension. C'est vrai, ça part du plus bas et ça va vers le plus haut. Mais si vous regardez de près, bah, y a quand même parfois des chutes de cette action, des moments creux, puis ça remonte, mais ça ne remonte pas aussi haut que ça a démarré, etc., etc. Et dans le livre, c'est vrai que j'ai voulu partager tout ça. Parce que souvent, les gens me disent « Ah, vous avez... » une incroyable carrière, et bon, on ne se rend pas toujours compte, mais les gens voyaient toujours ça d'une ascension assez dingue, et, oui. Et j'avais envie d'être très précis. En fait, ce n'est pas une question de dire « Ah, ça a été difficile et douloureux ». Non, mais être précis et juste. J'ai fait des choix qui n'étaient pas toujours les bons. Alors, on peut dire « Oui, mais ça t'a mené ». Oui, peut-être, mais c'est pas obligé de faire toujours de grands détours, okay. Des détours qui sont parfois, pour moi, vraiment inutiles, même si on apprend. Et j'avais envie de mettre en lumière ça. Bon, il y a des choses qui ne sont pas en lien avec mes choix, mais bon, voilà, mais comme beaucoup de gens, je suis issue d'une famille divorcée. Donc mon père et maman sont séparés un peu avant ma naissance même. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Et puis ensuite, j'ai vécu avec ma maman. Et puis ma maman a eu un cancer. Puis elle en est décédée quand j'avais 16 ans. Donc c'est vraiment que ça, c'est un moment pivot et clé dans l'histoire parce que c'est ce qui fait que je vis ma majorité émancipée. Donc à 16 ans, j'ai tous les droits d'un adulte et je vis seule. Et puis donc je termine tant bien que mal mes études. Et puis finalement, je m'inscris à un concours de beauté. Miss Belgique, je le gagne et puis je vis un peu le Cendrillon, quoi, princesse de nuit et de jour. Bon, concrètement, je vais dans des magasins très connus, j'achète mes vêtements et puis je les mets, je les ramène. Enfin, c'était un peu ça, mais oui. C'était très drôle. Ça fait des belles anecdotes à raconter. Et puis après, il y a eu ce moment de flottement où on remet la couronne. Il y a une nouvelle reine de beauté qui arrive, donc on est un peu complètement.
Il faut se définir.
Il faut se définir. Et se définir quand on n'a pas fait d'études supérieures et que c'est pas très clair. J'ai fait une année de relations publiques et puis Sciences Po, mais voilà. Bah moi, j'ai envie de dire qu'on vagabonde un peu d'expérience en expérience. Donc, j'ai été au cabinet du ministre de la Coopération et Développement. C'était intéressant, mais c'était clairement pas pour moi. Puis après, j'ai fini par être visage d'une marque de bijoux belge. Donc, j'ai voyagé un peu dans le monde avec ça, dans les grandes foires. C'était très enrichissant, mais aussi très particulier et très fatigant. Dans tout ça, on ne construit pas quelque chose de très tangible. On n'est pas formé. Puis, il n'y avait pas beaucoup de place pour les passions. C'est marrant, je me suis rendu compte qu'en étant dans un état de survie tout le temps,
survie, ouais. Carrément.
Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de survie tout le temps. Je me préoccupais toujours pour les finances, payer mon loyer. Moi, longtemps, j'ai cru que j'allais en prison si je payais pas mon loyer. Oui, c'était bizarre, mais...
On en rit, mais c'est terrible.
Mais quand on est dedans, qu'on est vraiment convaincu... En fait, c'est un stress psychologique. Alors, il y a des stress encore différents. Il y a ceux de nourrir ses enfants, il y a ceux de la maladie. Mais voilà, chacun a son stress à son niveau. Et il y avait beaucoup de stress, beaucoup de moments extraordinaires où je me retrouvais dans des conditions dingues, au bal de la Rose à Monaco... Mais il y avait beaucoup de féerie, il y avait beaucoup de poésie, mais il y avait aussi beaucoup de moments très terre à terre et très difficiles. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, 2 ans passent après cette magnifique année de Miss Belgique. Et puis, le téléphone ne sonne plus pour des prestations. Et on se retrouve un peu dans un sort de néant et de vide. Donc, du coup, je décide de reprendre une boutique de vêtements à Duffel. Mm-hmm. J'y connais rien en management, j'y connais rien en commerce. Je vais gérer une femme qui est plus âgée que moi, qui a plus d'expérience. Et je suis pas bonne du tout dans ce que je fais. Et vient s'ajouter à ça la crise des subprimes en 2008. Oui. Et là, je ferme la boutique et là, je me dis, faut travailler.
Qu'est-ce que je fais, oui. Mais surtout, moi, ce qui est étonnant, c'est que je trouve que tu as une aisance à parler. On sent que tu es pétrie de mots et de journalisme et d'envie de raconter des histoires.
Oui.
Ça, tu ne l'avais pas perçu plus tôt ou c'est, enfin,
j'ai toujours beaucoup parlé. Moi, j'étais une babble-tute. Pour ceux qui connaissent l'expression babble-tute, c'est vraiment quelqu'un qui parle en permanence. Moi, j'ai terminé avec un scotch sur la bouche par mon professeur parce qu'il n'en pouvait plus. Moi et une amie d'école, d'ailleurs. Et parler, c'était jamais le problème. Et puis, je parlais beaucoup toute seule, ce qui a beaucoup préoccupé ma mère quand j'étais petite, en disant « Est-ce que tu es folle ?» Non, j'ai de l'imagination. Et j'avais un grand miroir dans ma chambre. Soit, c'était des blagues, mais c'est vrai que la parole a toujours été là. Après, avec le temps, elle s'est un peu plus affinée. J'aime beaucoup lire, donc j'ai beaucoup lu des romans, des choses assez accessibles. Et donc, ça a peut-être enrichi le vocabulaire. Et maintenant, j'aime bien la justesse. J'essaie de trouver. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, on utilise même des mots dont on pense connaître la définition, et en fait, pas du tout. Je vais chercher pas du tout ça. Et in fine, non, en fait, je le découvre maintenant, et je l'ai vraiment découvert et accepté dans l'écriture du livre.
Okay.
L'écriture du livre a vraiment permis de mettre en lumière quelque chose d'important pour moi. Mais en tout cas, en résumé, il y a eu des hauts et des bas, et donc il y en a plein, et donc ceux qui auront le temps iront lire le livre. Mais
subprimes et...
Subprimes, et après, il fallait travailler. Donc il a fallu que je trouve un job, et là arrive, je deviens réceptionniste de l'accueil de chez Caméléon, qui est un... Je dis Caméléon parce que c'est un truc tellement privé, c'est un comptoir de vêtements où il faut être membre, et donc j'étais là.
Qui est assez connu ici en Belgique.
Bon, je pense qu'ils sont encore ouverts, mais ils sont à Bruxelles.
Okay.
Mais c'est pour dire, c'est pour expliquer juste qu'est-ce que je faisais.
Oui.
Et moi, j'avais juste besoin de payer mon loyer. Donc, j'étais très contente de m'en sortir financièrement à nouveau, d'avoir mon loyer payé. Mais ça a été très confrontant parce qu'évidemment, plein de gens me reconnaissaient quand même. C'était encore pas trop loin. Et les gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire que...
Comment tu gères ce regard où, quelque part, dans l'inconscient de tous, tu es Miss Belgique, tu es la lumière, tu es une icône.
Et le quotidien,
c'est que je dois...
Il a fallu beaucoup d'humilité, ravaler l'ego. L'ego a été très, très... confronté, il a été très mis à mal avec le regard, parce que je voyais les regards des gens, puis je voyais les un peu sortes de messes basses. Puis il y a eu un jour quelqu'un qui m'a vraiment confronté, m'a dit, mais est-ce que ça ne serait pas vous, l'ancienne Miss Belgique? Je dis oui. Il dit, ah ben voilà, ma femme est contente. Il dit, au fait, il dit, vous n'avez pas trouvé mieux quand même. Et c'était vraiment le fond de la pensée, d'une pensée un peu, je ne dis pas collective nationale, mais de quelques gens qui passaient, qui disaient, oh, c'est quand même un peu dommage. Et ben c'était comme ça. Et en fait, ça m'a appris une chose, c'est que d'abord, quand on a besoin de travailler n'importe quoi, il n'y a rien. Il n'y a pas de sous-métier, il y a juste des métiers, il faut manger. Et c'est ça qui est important, c'est trouver un job. Et moi, je préfère récurer les toilettes avec du bicarbonate et du vinaigre, certainement, et pas autre chose, que je suis 100% nature. Mais j'ai plus aucun problème. Je sais qu'aujourd'hui, si je retombe bas, il n'y a aucun problème. J'irai nettoyer, j'irai faire, et ce n'est pas grave, je la ferai à ma sauce, et voilà. Et ça m'a donné une grande leçon. Et surtout, il y a toujours un cadeau. En fait, quand on fait un effort qui nous coûte beaucoup, qui nous meurtrit pour certaines choses... par rapport à notre mental, notre ego, il y a toujours un cadeau derrière. Et le cadeau a été fantastique, puisque c'est là où on m'a repéré pour faire de la télé, pour faire cette carrière à la météo, qui est une carrière qui dure 12 ans, et maintenant chez TF1. Donc, j'ai toujours, waouh, merci Seigneur, merci l'univers d'avoir accepté, d'abord de m'avoir donné ce job. Et moi, j'étais contente. Je rentrais chez moi, j'avais pas trop de soucis financiers, j'avais fait mon job. C'est un job où on faisait les tracas, c'était la journée avec les clients, s'il y avait des plaintes. Mais après, c'était cool. Je rentrais, je pouvais être chill, aller... Enfin, il y avait de l'insouciance. Moi, j'ai tellement manqué d'insouciance que ce job a été d'une insouciance incroyable. Et je serai jamais assez reconnaissante au boss à l'époque de m'avoir engagée. Et puis, ça m'a ouvert des portes. On sait jamais où on va rencontrer sa bonne étoile. Hein, peut-être que, ou même son amoureux, parfois, oui, je parviens à cette soirée, mais je suis célibataire, mais vas-y, et tu vas, et là,
c'est le grand jour,
exactement.
C'est la grande rencontre qui change le cours de ta vie.
Donc ces rendez-vous-là, l'univers, il les prépare, mais il y a le libre-arbitre, il n'interfère pas. T'as pas envie de sortir de ton lit, t'as pas envie de faire ce job parce que tu trouves que c'est pas digne de toi ou c'est pas assez payé ou quoi, bon.
Voilà.
J'avais peut-être prévu un truc, mais ok, ça sera peut-être ailleurs, je devrais le mettre. Et alors, il s'attelle à essayer de créer les mettre ailleurs, les surprises. Mais bon, voilà, et c'est le libre arbitre de l'humain, et il y a toujours un cadeau. Donc voilà, il faut parfois se faire un petit peu... Pour moi, c'était un peu violence, quoi. Se faire un peu violence, mais voilà. Après, quand ça devient de la survie, J'ose espérer qu'il n'y a pas trop de violence et qu'on y va et qu'on dit... Comme les gens, hein, les gens qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas beaucoup de qualifications, ils acceptent tout. Mais ils sont contents juste d'avoir un job. Et après, ceux qui aspirent à plus, ben, ils travaillent pour plus. Et ça peut arriver. Bon, oui. Voilà, après, ça n'arrive pas aussi. Hein, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Mais donc, tu commences la météo à la RTBF.
Oui.
Mais tu t'amuses. Comment ça se passe?
C'est dur. C'est dur. En fait, la météo, les gens pensent toujours qu'on arrive le matin, on lit un bulletin et puis on part. Et puis notre journée est faite en 10 minutes. Et non. Et puis là, aujourd'hui, il y a une exigence qui est de plus en plus importante parce qu'il y a des phénomènes météorologiques qui s'intensifient. Donc, c'était dur parce que j'y connaissais rien, clairement. On m'a formée, mais la formation, il faut l'intégrer, il faut l'assimiler et ça met du temps. Okay. Vraiment. Et puis, il faut connaître les phénomènes qui arrivent. Vous parlez d'un ouragan, si vous ne le vivez pas, bon, le jour où on arrive avec une dépression, on se dit « Ah oui, ça cause ça comme problème. Oui, » Et oui. C'est ça les... Et donc, ça a été, c'était génial, mais c'était dur parce que l'apprentissage n'était pas facile.
Combien de temps pour entrer dans le rôle?
Je ne sais pas, moi, je me sentais illégitime pendant au moins encore 7 ans.
Ah, 7 ans?
Non, mais...
syndrome de l'imposteur était présent à
Après,
côté de toi.
J'arrivais à faire mon travail, je pense que ça roulait et que les gens étaient en tout cas satisfaits de ce que je pouvais leur donner, mais arriver à avoir les connaissances. Même aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne sais pas encore, que j'apprends encore. Mais oui, si, durant mes années, en tout cas, pendant au moins 7 ans, ça a été dur de me sentir légitime. Ça s'est un peu réparé, comme je le dis dans le livre, quand je suis arrivée chez TF1. Mais ça perdure toujours. C'est comme si la société avait été... construite pour un schéma très précis, c'est-à-dire des études, une fois qu'on est diplômée. Et encore, il y a plein de femmes qui sont diplômées et qui vous disent encore, même en exerçant leur métier, qu'elles ne se sentent pas encore légitimes. Donc je me dis, en fait, c'est peut-être un syndrome très féminin, tout simplement, et qu'il n'y a pas, en fait...
Ou un contexte qui...
Oui, il y a des sous-jacents, il y a des blessures et des peurs. C'est elles qui viennent alimenter, puisque tout le monde ne souffre pas du sentiment d'illégitimité. Donc c'est clairement que les terrains ne sont pas les mêmes et il y a des terrains plus friables par rapport à ça. Mais venait se rajouter la couche de pas de diplôme, formée sur le tard. Puis j'avais été élue Miss Belgique chez RTL, chaîne privée. J'arrivais sur une chaîne publique, il n'y avait pas de speakerine. Enfin, il y avait un contexte quand même complexe. Et puis, il y avait beaucoup de peur de ma part, beaucoup de manque de confiance. Et
quelles étaient les plus grandes peurs, d'après toi?
Qu'on me démasque, que je n'ai rien à faire là, que je suis une imposture, quoi. Je me suis dit, un jour, quelqu'un va prendre le temps de regarder tous mes bulletins, il va dire... Ça va pas du tout. C'est une imposture. Elle
et pourtant, connaît. Moi, je trouve que tu es une acharnée du travail et que tu fais bien. Enfin, tout ce que tu entreprends, tu le fais bien.
J'essaye, mais je pense
on sent qu'il y a de la préparation.
Mieux.
On sent qu'il y a beaucoup de volonté et beaucoup de bienveillance. Et je pense que le lien que tu arrives à créer avec les personnes, à tes auditeurs, les personnes qui te les personnes qui te regardent, je pense que cette humanité-là, c'est ça qui t'a ouvert beaucoup de portes, j'imagine.
L'humanité, ça, c'est ce que je cultive beaucoup, c'est vrai. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Il y a des gens qui sont toujours beaucoup plus pointus que moi, clairement, plus geeks. Mais je suis aussi quelqu'un qui est passionné par plein de choses. C'est-à-dire que j'aime faire la météo, je me réveille, je suis contente d'aller à mon travail. Bon, je redoute parfois quand je vois des phénomènes météorologiques, je me dis, oh mon Dieu, ça va être intense. Là, la canicule, par exemple, au moment où nous, on enregistre, c'est la période de la canicule. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui tombent. Bon, voilà, il y a une exigence au niveau du travail. Il y en a toujours, mais là plus, parce qu'on va avoir les records de température. Est-ce que ça va perdurer? Bon, bref, je passe les détails de mon métier. Après, j'aime tellement de choses. Et c'est vraiment un bonheur, mais c'est un grand défi. Quand tu aimes plein de choses, que tu aimes autant manger, que voyager, que tu aimes autant les humains, que tu aimes la psychologie, que tu aimes la lecture, enfin,
La spiritualité,
oui, il y en a plein. Où tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu vas approfondir? Et ça, c'est un vrai défi. Et j'ai une grande admiration et j'envie même parfois jalousement des gens qui ont une passion plus forte que l'autre, on va dire, quelque chose qui résonne vraiment comme c'est ça. Parce qu'ils ont trouvé cette voie dans laquelle ils vont pouvoir se plonger, alors peut-être pas pendant 40 ans, mais peut-être au moins pendant 5 ans, 10 ans. Et moi, je suis toujours en quête, comme ça. C'est comme si le puzzle se définissait au fur et à mesure. Je trouvais une pièce, je me dis, ah, mais tiens, j'ai quand même construit pas mal, là. Peut-être que ça, je devrais explorer un peu plus. Mais c'est long, c'est long. Et en même temps...
J'ai envie de dire, en lisant ton livre, et d'ailleurs, quand je regarde mes garçons qui ont presque grandi avec toi, et chaque fois que tu termines ton bulletin météo, et surtout, prenez bien soin de vous, et ils font le même geste que
c'est
toi.
C'est trop chou.
Tu as un fan club à la maison.
C'est trop mignon.
Je suis obligée de prendre une photo, parce qu'ils vont m'en vouloir à vie. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une envie d'aller vers les autres, de transmettre, de partager en fait ton chemin, ton développement personnel qui vers la lumière. Et si on devait résumer finalement ce que tu voulais transmettre à travers ton livre, quel est le quelles sont les plus grandes quelles sont les plus grandes leçons ou quel est le message que tu voudrais transmettre?
J'avais vraiment envie de mettre en lumière ce qui, moi, m'a le plus frappée et apportée en termes de, comme disait Oprah Winfrey, « aha moment », ces moments où tu dis « ah, c'est ça ». Vraiment ce livre de Lise Bourbeau avec les blessures, les cinq blessures de l'âme, mettre en exergue les blessures qu'on porte, ça m'a vraiment... Moi, je suis analytique, je suis mentale, j'analyse, je cogite tout le temps, j'analyse, je suranalyse, etc. Et je dois comprendre. Quand je comprends, je me dis « ah, ok, ça vient de là, donc ok, je comprends ». Après, ça veut dire que ça disparaît, mais ça permet déjà de commencer un travail sur quelque chose de précis. Donc, j'ai envie de montrer aux gens qu'en fait, les blessures qu'on a et qui se révèlent beaucoup durant l'enfance vont nous porter et vont déterminer beaucoup des choix qu'on va faire ou des non-choix qu'on va faire. Et que rien n'est irréversible, évidemment. Mais la conscience de ça permet déjà de mieux avancer. On ne peut pas avancer avec une inconscience. Enfin, okay. Un manque de conscience, c'est des choix qui ne sont pas faits en conscience et donc qui ne sont pas connectés à nous. Et donc, dont on peut difficilement assumer les conséquences.
Okay. Mais quelles sont les plus grandes blessures pour que les personnes puissent se raccrocher à ce que tu...
Elle parle, donc ça, ce n'est pas moi qui dis, mais donc elle parle des cinq blessures. Donc, elle parle du rejet, de l'abandon, de la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et donc, elle définit qu'on a tous au minimum deux blessures, trois blessures. Et donc, moi, clairement, la plus grande, c'est l'abandon. Beaucoup de gens l'ont, mais moi, je l'ai en tout cas, qui est très clairement. Et puis, elle vient se mêler un peu avec du rejet. Et à ma grande surprise, en lisant la description de comment on fonctionne, parce que c'est assez extraordinaire ce livre, elle décrit le mode de pensée, le bouclier qu'on porte pour cacher sa blessure et comment on fonctionne mentalement. Et c'est très perturbant parce qu'on a l'impression qu'elle est venue dans notre cerveau noter comment on pense, qu'on cache en fait, qu'on dit jamais, parce qu'on parle toujours joliment, on monte toujours le beau versant en disant oui, mais j'ai aussi des défauts, mais il y a toujours quelque chose de surfait. Même quand je fais l'interview ici, ça sera jamais aussi juste et près de la réalité que comme je suis à l'intérieur. Et donc moi, j'ai aussi l'injustice, et c'est vrai, parce qu'il y a des fois, en fait, le seul moment où je viens volcanique, encore je suis très calme, je suis devenue très cool, tout coule beaucoup. Mais les fois où je deviens volcanique, c'est quand j'estime que soit moi ou quelqu'un est victime d'une injustice. Et là, je deviens une sorte de lionne qui peut incendier tout le monde et qui peut même se mettre en porte-à-faux ou qui peut même se mettre en difficulté au boulot, n'importe où, parce que j'estime que ça, c'est une injustice et ça passera pas. Mais donc ça, c'est un travail à faire.
Tu penses que l'injustice vient du fait que tu étais un peu différente dans le sens ton parcours différent du parcours typique?
Bon, moi, je pense que ce sont des blessures qui vont même plus loin. Elles sont même karmiques ou j'ai l'épigénétique, elles viennent de mes ancêtres. Je pense qu'il y a eu il y a déjà ça qui est très fort. Et puis mes parents aussi, qui ont vécu des formes d'injustice. Et donc, oui, j'ai je la porte et donc j'ai pu l'expérimenter. Il y a des moments où, ne serait-ce qu'en Miss Belgique, il y a quand même tout un moment où on pense clairement qu'on est un peu esservelé, quoi, qu'on n'est pas très, on n'a pas grand chose à vendre de plus que ce qu'on est physiquement. Et il a fallu un peu.
Ça, c'est une tare que beaucoup de Miss Belgique
c'est très embêtant,
gardent dans le cœur, parce qu'elles ont donné beaucoup, elles ont tellement à donner encore. Et on les réduit à une image.
Il y a une sorte de limitation qui est très, très dérangeante. Et ça demande un effort constant. Alors, on peut aussi ne plus résister et dire je suis ce que je suis, mais quand on a encore envie de prouver, ça dépend ce qu'on fait. Oui. Si on a un job, qu'on est bien dans son job, qu'on a sa famille, qu'on trouve que c'est bien, ce que pensent les autres, en fait, c'est toujours la même chose. Ce que pensent les autres ne nous intéresse pas. Mais si on estime qu'on veut aller quelque part, là où ça nous est interdit, un peu comme une femme politicienne, je rencontrais une femme politicienne belge d'origine africaine, c'est la première. Mais il y avait beaucoup de stéréotypes et beaucoup de difficultés par rapport. Et on lui dit, mais toi, tu devrais plutôt rester à la maison, élever tes enfants, t'as pas le temps, etc. Et ça la rendait hystérique, parce qu'elle dit, mais c'est moi qui dois savoir si j'ai le temps ou pas. C'est pas toi qui dois déterminer. Et donc, quand on veut aller vers quelque chose qui nous est inaccessible par préjugé, par tout ce qu'on veut, et notamment celui d'avoir été mis, c'est donc de pas avoir grand-chose à revendre, c'est dur, parce qu'il faut aller au charbon et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ça m'a demandé beaucoup. Mais maintenant... Il y a des choses pour lesquelles j'ai plus envie de me battre, ça m'intéresse plus. Si les gens veulent penser que pas grand-chose à revendre, c'est pas grave, là je suis OK. Mais c'est partout, hein. C'est pas que quand on a été Miss Belgique, qu'on soit une femme ou un homme qui dit voilà, aujourd'hui moi j'ai envie de faire quelque chose avec une sensibilité, c'est beaucoup mieux d'accepter aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans. Mais on dirait beaucoup, qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce qui t'arrive?
Ça c'est plutôt. Je pensais le jour à. J'ai découvert qu'il y a des hommes de ménage.
Ah bon?
Toujours des femmes de ménage.
Ah, je ne savais. Oui, tu vois.
Mais il y a des hommes qui. Bah, y a beaucoup, je trouve qu'au début, quand un homme a dit « moi j'ai envie de faire le ménage », on dit « mais non, c'est un truc de femme. Bah, pourquoi c'est écrit où il y a une réglementation qui nous empêcherait ?» Non. Et en fait, ouvrir la voie, aller là où il n'y en a pas encore eu, c'est toujours plus compliqué. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà tracé, c'est comme un peu construire des routes. Quand il n'y en a pas, les premières routes, il faut creuser, il faut déblayer, il faut asphalter. Mais une fois que ça a déjà été fait, bah, ça roule, quoi. Mmh. Donc les gens qui montrent la voie ou les gens qui vont vers des voies qui n'existent pas encore, qui les ouvrent, c'est toujours plus difficile. Mais ils ouvrent la voie pour tous ceux qui sont derrière.
Ouais.
Donc voilà, c'est un beau travail qu'on fait pour soi en règle générale. Et puis après, on ne sait pas qu'en fait, ça impacte oui. les autres. Donc,
oui, pour en revenir à
l'injustice,
ton livre.
Oui.
L'injustice, enfin, c'est cinq...
Oui, donc le livre, en tout cas, ce que je voulais partager, c'est la conscience des blessures, parce que c'est celle qui nous empêche d'avancer, peu importe le domaine dans lequel on est. Et puis, j'avais envie de partager aussi le fait de passer de l'inconscient, donc de subir en fait, et puis de prendre conscience et on devient conscient. Donc dans le livre, ben, les gens qui vont le découvrir, il y a trois chapitres, inconscient, puis je passe de l'aspect conscient et je reconnais ce qui est aussi important et ce qui m'aide à avancer, notamment la notion du temps qui invite à la patience, qui invite à dire que tout est juste, qu'il y a toute une raison d'être et on le découvre avec le temps.
Et paradoxalement, oui. On a l'impression dans ton livre que tu es passé d'un contrôle absolu du temps
oui.
à une certaine forme de relâchement pour laisser les choses arriver.
Alors, il y a un relâchement, c'est vrai. Et on discutait en off et je reste une femme contrôlante. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Ce livre, il a été écrit, il y a un cheminement. Les gens qui me connaissent il y a 10 ans, qui me connaissent vraiment bien et même ceux un peu moins, ils voient le changement en 10 ans. Il y a assez de recul pour voir. Mais je garde encore beaucoup de choses parasites, je garde encore. Sauf que j'ai conscience. Maintenant, quand je commence à faire certaines choses, je dis « Ah, personnage est de retour !» La contrôlante est là. Et ce qui change, c'est quoi ? C'est que la contrôlante, elle sait qu'elle est observée par ce qu'on dit en anglais, la higher self, donc sa version plus lumineuse, la plus parfaite de soi. Elle dit « Ah, j'ai vu qu'en fait, il y a la contrôlante. » Et la contrôlante dit « Ah, merde, je suis surveillée. » Elle est toujours là. Mais elle est moins despotique, quoi. Elle est moins... Et donc, petit à petit... Voilà, c'est comme quand mon ego parfois cogite, et je dis « Ok, je t'ai entendu. » Mais ça ne sert à rien, on ne va pas avancer, donc calme-toi. Et bizarrement, c'est comme un auto-coaching et ça régule. Et il viendra peut-être un jour où il y aura moins ça, de moins en moins.
Tu installes plus d'harmonie entre les différentes facettes de ta personne.
Oui, d'abord, tu acceptes qu'elles existent parce qu'elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Tu acceptes aussi que celle qui est contrôlante, bah, elle a essayé en fait quand tu avais 16 ans, de tenir la baraque, parce qu'en fait, quand tout s'effondrait et que tout se barrait parce que ta mère est décédée, parce que tu te retrouves seule, mais il faut une contrôlante qui dit bah, « Attends, on va contrôler, on va cadenasser, on va structurer, c'est elle qui a aidé. »
On va organiser. Il faut,
exactement, oui. Donc on est content d'avoir la contrôlante. Sauf qu'on la blâme parce qu'aujourd'hui, elle a pris trop de place. Ben oui, elle a dû prendre beaucoup de place, plus même qu'on aurait voulu parce qu'elle a dû assumer. Ben, c'est un peu comme la mère qui doit jouer le rôle de la mère et du père. Après, tu veux dire « Maman, t'es pas mon papa, t'es ma maman, ou tu dois pas me surprotéger, je suis grande, mais non. » Ben oui, ben, elle a dû le faire pendant tout un temps. Donc après, il faut réajuster. Donc ils sont toujours là, donc c'est accepté. Et donc c'est vraiment montrer cette notion, montrer aussi les différentes expériences et prises de conscience, et montrer à quel point pour moi le cheminement vers ma spiritualité, qui n'est pas dogmatique, qui est juste créer un pilier interne avec une foi, ça peut être une foi en soi, on peut le mettre aussi en quelque chose de plus universel. Ça, c'est ce qui m'a fait tenir aujourd'hui contre vents et marées. J'aurai encore peut-être des genoux à terre, hein, mais il n'y aura jamais deux genoux à terre. Toujours je me relèverai. Ça, c'est une certitude que j'ai maintenant avec tout ce que j'ai vécu. Et puis, il y a l'aspect de partage, parce qu'après, c'est très abstrait tout ça. Ça reste des mots, ça reste des émotions, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ok, je m'identifie, je ressens ce que tu as ressenti, je vis plus ou moins la même chose, sous une forme différente, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc après, il y a des outils. C'est pas des outils, c'est qu'est-ce que j'ai été chercher, qu'est-ce que j'ai été faire, et ça, c'est une invitation à aller chercher soi-même.
Oui. Mais en tout cas, c'est merci pour ce livre, parce que je trouve que les entrepreneurs devraient le lire.
Ah oui.
Tu sais, en off, on parlait de ce hero journey,
oui.
de ce cheminement,
oui.
et qu'un projet entrepreneurial ou même artistique, ou peu importe, est en fait est le début d'une aventure,
oui.
mais une aventure qui nous demande de regarder aussi à l'intérieur.
D'une introspection,
de savoir qui on est, quelles
Bien
sont
sûr.
Nos forces, nos faiblesses,
Bien sûr.
D'être capable d'avoir cette honnêteté,
oui.
vis-à-vis de soi et aussi une certaine spiritualité
oui.
pour avancer. Et en fait, c'est fou que beaucoup de gens aient mis du temps à accepter cette dimension-là.
On l'a un peu perdu ici en Europe, on est un peu loin. Enfin, on a eu la religion qui a eu une forte emprise dont on a voulu se libérer et pourquoi pas. Mais il y a une dimension spirituelle. La spiritualité, c'est une connexion aussi à tout un chacun. C'est l'humanité.
Tu peux définir, toi, ta vision ou ta version personnelle?
C'est toujours difficile. Pour moi, ma spiritualité, c'est quelque chose qui me connecte à l'autre. D'abord, qui me connecte à moi. Et en me connectant à moi, je peux être connectée à l'autre. C'est difficile d'être connectée à l'autre si on n'est pas connectée à soi, en fait. C'est comme s'il y a un désalignement. Comment on peut demander à avoir un alignement dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, si soi-même, on n'est pas aligné? Et pour ça, il faut se connecter à soi. Et donc, après, la spiritualité, c'est vaste, hein, c'est des énergies. Il y a l'animisme qui est au Japon, où on pense qu'il y a des esprits dans tout objet, dans tout lieu. Et cette croyance-là est dans plusieurs continents. Il y a le chamanisme en Mongolie, il y a le chamanisme au Pérou. Donc, moi, je crois beaucoup aux énergies. Je crois que là, maintenant, on commence à découvrir de plus en plus l'énergie avec la physique quantique, etc. Mais je crois aux énergies, je crois au taux vibratoire. Il y a des moments où moi, mon énergie est très basse et je le sens. Et puis, donc, je suis plus négative, je suis plus enclin à manger de la fast-food. Et donc, tout ça, c'est un rééquilibrage à faire personnellement. Et donc, c'est pour ça que l'équilibre, c'est pas que spirituel, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Tu peux manger très, très bien, mais c'est toujours négatif. Est-ce que ça vaut la peine, en fait, de manger bien? Parce que tu te détruis de l'intérieur aussi. Inversement, tu peux méditer et manger de la fast-food, c'est incompatible. Mais en fait, quand on commence à chercher qui on est, donc en fait, même si on ne cherche pas, ça vient nous chercher. Hein. L'expérience de vie nous amène à nous poser des questions, tôt ou tard. Et après, les gens vont plus ou moins plus loin, parce qu'on n'est pas tous venus expérimenter la même chose. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de cette dimension de partir en retraite, d'aller voir un chaman, d'aller voir un moine. Il y a des gens qui pratiquent une spiritualité qui est très, très proche de l'humanité et au quotidien avec leur entourage, et c'est merveilleux.
Et de l'amour. Enfin, moi, c'est...
C'est ça.
Pour moi, c'est le Dieu sacré.
Mais bien sûr.
C'est l'impact positif, c'est ce que tu donnes, c'est la générosité, c'est ouvrir son cœur.
Exactement.
Et c'est là que les portes s'ouvrent aussi.
Donc, mais parce qu'il y a deux niveaux d'énergie, où c'est régi par la peur et l'amour. Donc quand tu prends une décision, quand tu dis quelque chose, est-ce que ça part d'un point de vue de la peur ou de l'amour? Mais pose-toi vraiment la question, hein. Faut pas répondre rapidement à ça, il faut se poser la question. Quand tu écris un message, est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est dans le but de vous élever, vous deux, ou dans le but de confronter l'autre de manière un peu jugeant et confrontant à cette personne par rapport à une situation et d'être un peu donneur de leçons ou de lui dire en fait ça m'a fait mal. Et puis la capacité à montrer sa vulnérabilité ouvre aussi l'autre au dialogue et on est vraiment dans l'amour. Mais c'est pas évident parce qu'on a on protège quoi. Le petit cœur il est très résistant. Mais là je lisais au Japon ils ont mis un mot pour la maladie du cœur brisé. Des gens qui ont le cœur tellement brisé qu'ils font presque un arrêt cardiaque en fait. Et donc, on peut avoir vraiment le cœur brisé. Donc, décemment, je comprends qu'on puisse vouloir le protéger d'une amitié, d'une relation amoureuse, même au travail, etc.
Et même des échecs.
Bien sûr, évidemment. Les échecs nous ramènent à le sentiment d'être digne, d'être aimé. Donc, quand on échoue quelque chose, qu'on n'est peut-être pas digne d'être aimé, d'être digne d'être reconnu, d'être apprécié. C'est toujours la même chose. Hein. C'est digne d'être apprécié, reconnu, quoi. Digne d'être aimé. Même si on dit, mais que ça va aimer avec un projet, en fait, c'est la jeunesse, il faut aller à la jeunesse. Et donc, aimer, c'est quoi? C'est l'amour.
Oui.
Si tu sens que tu n'es pas digne d'être aimé, tu auras du mal à t'imposer, tu auras du mal à croire qu'on peut acheter ton produit, tu auras du mal à croire qu'on peut acheter ton livre, que tu peux être prise pour un projet extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner, c'est que c'est toujours la même chose. On aura beau le dire dans mon livre, dans d'autres livres, c'est l'amour et la peur. Après, c'est bon de lire ou de regarder des films parce que chacun amène son angle et l'angle par lequel on prend les choses, on le comprendra un petit peu mieux.
C'est vrai. Mais tu sais, ça me donne une bonne transition vers un sujet qui est assez critique pour la plupart des femmes qui se lancent.
Oui.
C'est comment j'appréhende le regard des autres, comment j'appréhende la lumière, comment est-ce que je reste fidèle à moi-même, comment est-ce que je reste authentique pour être acceptée et in fine être aimée. Et il y a beaucoup qui s'auto-sabotent par peur d'être dans cette posture cette position-là. Comment est-ce que toi, tu as géré, parce que tu nous parlais d'un syndrome de l'imposteur qui était présent, pourtant plus exposé que toi, tu es très exposé. Comment tu as géré vraiment ce passage à la lumière et quand même réussir à te trouver et à gérer tout ça? Enfin, les retours et les regards.
Moi, ma survie, elle a toujours été survie ou adaptation. Ça a été être un caméléon et parfois faire du cache-misère, prétendre. Ça a été parfois beaucoup de jeux de rôle. Parfois, les gens vont au bluff. Quand tu vas à une audition ou tu vas à un entretien de travail, si tu n'as aucune expérience professionnelle, tu peux être très honnête. C'est beau d'être honnête. Mais parfois, tu sais que ça ne marche pas. Donc, tu es obligé de jouer avec les règles des autres aussi. Et les autres, c'est parfois un peu grugé. Oui, j'ai telle expérience et tout. Parce que tu sens dans ton fort intérieur que tu serais capable de le faire. Mais si on ne te donne pas ta chance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer toujours franc-jeu ou essayer d'enjoliver un peu. Donc moi, j'ai parfois enjolivé, j'ai joué un rôle, jusqu'au moment où c'était comme si j'étais en cours d'apprentissage Et le temps que cet apprentissage se faisait, je faisais un peu du cache-misère.
Fake it till you make it.
Oui, exactement. Fake it and you make it. Exactly, j'adore. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que décemment, je n'étais pas formée en tout et même en très peu de choses. Et j'ai rencontré des grands ponts, des grandes personnes. Donc, écouter, ça aide beaucoup. Plus écouter que parler. Puis parfois, un peu prétendre. Jusqu'à ce que cette formation se fait au fur et à mesure. Mais dans formation sur la vie, sur la culture, etc. Parce que moi, chez moi, on n'était pas très formé à la culture, quoi. Je veux dire, c'était assez simple. Donc, il fallait se former sur le tas. Et après, en fait, vient un moment, et c'est ça qui est intéressant pour ma part, c'est qu'il y a le cache-misère, on prétend, on fait. Et puis, il y a un moment où on a quand même accumulé des connaissances, on a accumulé un certain savoir de soi, puis on commence à être un peu complimenté, à dire « mais non, mais je fais vraiment bien ce travail ». Et là, on lâche. On lâche un peu le cache-misère. On dit « j'ai plus besoin, je me sens un peu plus… » Oui. Voilà, et c'est fait progressivement. Mais non. Il y a aussi des gens, parce que là, tu as un autre exemple qui n'est pas le mien, mais des gens qui, par exemple, n'osent pas. Ça a à voir essentiellement avec la confiance en soi et le fait d'accepter qui on est. En fait, il y a des gens qui n'acceptent pas. J'ai des amis comme ça qui n'arrivent pas à se voir telles qu'elles sont parce qu'un énorme manque de confiance. Et ça vient de l'enfance. Les parents n'ont pas été très élogieux, ont toujours été très critiques, ou la fille n'a pas été à la hauteur, on n'a pas fait ce que les parents voulaient. Ça crée déjà des brèches énormes. Et donc là, il y a un travail à aller dans le passé, aller observer d'où ça vient. Parce que quand on sait d'où ça vient, on se dit « Ah, c'est pas moi, en fait. Il y a quelque chose qui s'est fait au-delà de moi, déjà. » Puis après, quand on sait, parfois, ça n'aide pas souvent, il faut entamer des outils. Moi, je dis qu'il faut aller faire des outils, du coaching, de la thérapie, de l'hypnose, pourquoi pas, du théâtre, parfois pour oser aller, parfois aller dans les extrêmes qui nous font vraiment peur. Par exemple, moi, j'aime pas lâcher prise, donc je sais que ça serait merveilleux pour moi de faire un saut
en parachute.
Jamais, jamais je ferais, jamais, trop peur. Mais je sais que dans mon expérience, ça serait très bien, ça me serait très bénéfique. Mais honnêtement, à moins d'être vraiment obligée, je le ferais pas. Mais donc, il y a des choses, parfois aller à l'opposé de ce qui nous fait très très peur, débloque quelque chose.
Se bousculer un peu.
Ou c'est bien, parfois il y a des retraites ou des semaines de coaching et après on nous demande de faire un truc en public et on n'a pas le choix, on ne peut pas. En fait, décemment, on ne peut pas faire « on n'est pas en vie, on est là, on est obligé, tout le monde a un peu ». Et on se lance et ça, c'est libérateur et ça fait vraiment un déclic. Mmh. Donc moi, je dirais quelqu'un qui n'arrive vraiment pas, ou je ne sais pas, qui a une timidité ou qui arrive pas, aller parfois à l'opposé, faire un truc qui est vraiment, mais peut-être pas au travail directement, je dirais. Tout est un striptease comme ça, non. Si c'est le travail qui pose problème, c'est de le faire en dehors, quelque chose, je sais pas, aller faire un karaoké, chanter devant tout le monde, même si et ça peut commencer à débloquer.
Tu sais comment moi je me suis débloquée, c'est j'annonce les choses avant même de les faire. Donc tu vois,
tu mets une pression comme ça.
Horrible. Et je me dis, donc je.
Mais ingénieux.
Oui, tu t'engages.
Ah oui.
Et après, il faut le faire. Voilà.
Ah, c'est vrai. C'est vrai.
Et moi, j'ai été un peu dure avec moi-même, mais c'est comme ça que je me suis forcée à sortir de ma coquille.
Mais ça, c'est une super astuce. Donc, c'est-à-dire que tu vas vers ce qui te fait le plus peur.
Oui.
Et ça, ça fonctionne vraiment très bien. Moi, je ne fais pas ça. Parce que...
c'est un peu kamikaze. Ma méthode est un peu kamikaze.
Mais je veux dire que je pense que pour toi, ça marche bien. Moi, je pense que je m'en voudrais tout le temps. Je serais stressée, j'aurais des palpitations. Et puis, j'essaierais de me défendre en disant « mais non, mais ce n'est pas ma faute. » Parce qu'évidemment, l'attaque est la meilleure défense. Non. Ça serait trop compliqué. Mais je salue parce que c'est une manière... Voilà, moi, j'ai fait du cache-misère pour essayer d'avancer, pour me dire « ok, le temps que j'arrive à être formée. » Tu sais, un peu comme dire « oui, je sais marcher. Oui, je sais faire du roller. » J'ai à peine été sur des rollers. Mais je me dis « le temps qu'ils s'en rendent compte. » Ça devrait aller, ils ne sont pas à côté de moi. C'est comme quelqu'un qui dit, c'est des livraisons de nourriture, mais ça se fait en roller. J'accepte, je sais pas les rêves. Vous savez patiner? Oui, pas du tout. Mais tu prends 3 heures pour une livraison. Bon, voilà. Je pense que ça peut... il y a deux techniques. Et se dire toujours qu'en fait, qu'est-ce qui est pire? Parce que ça aussi, je me disais, ok, au pire, qu'est-ce qui arrive? Au pire du pire. Tu vas prendre pas en parole en public et ça va vraiment pas. Au pire, ça va être un moment de gênance et puis ça passera... Mais voilà, il y a plein de choses à faire, mais je pense que c'est aussi bien de se faire accompagner. Ça, il ne faut jamais oublier que c'est un cheminement qui est personnel, mais on a un tas de gens sur ce chemin qui sont capables de nous tendre la main et nous aider. Regarde, aujourd'hui, tu fais ce podcast, tu fais tes newsletters, c'est donner des outils, c'est accompagner les gens d'une manière ou d'une autre. Peut-être que plus tard, tu feras des accompagnements individuels. On ne fait pas ce cheminement seul, hein. C'est impossible. On le fait avec des gens qui nous font du mal, parce qu'on crée de la résistance par rapport à ce qu'ils nous apportent. Les gens ne sont jamais fondamentalement mauvais. Il y en a évidemment, tu peux te poser vraiment la question, qu'est-ce qu'il y a, mais il y a des théories qui soutiennent qu'on choisit vraiment des expériences qu'on vit, même si elles sont très douloureuses. Pourquoi ? On découvre plus tard. Donc, on est toujours accompagné. Et en plus, si tu veux te faire accompagner, là, tu choisis. Donc, quelque part, tu peux choisir. faut pas faire un chemin seul, on n'y arrivera pas tout seul. Et parfois, ceux qui nous aident ne sont pas toujours nos amis, ce n'est pas toujours notre compagnon de vie, c'est vraiment des gens extérieurs qui n'ont pas un engagement émotionnel, qui n'ont pas déjà un regard très, très marqué par l'histoire qu'ils connaissent de nous. En fait. C'est des gens qui ont des outils, qui voient la grille de lecture de ce qu'on est, qui disent « bon, on va aller vers ça parce que c'est ça qui est compliqué ». Et puis avec qui, parfois, on se sent plus à l'aise. Parfois, on parle plus et mieux à des inconnus qu'à des gens qui sont extrêmement proches parce qu'on a besoin d'avoir une certaine posture et une certaine figure et que parfois, on a du mal soi-même à gérer notre sentiment de faiblesse et d'incapacité. C'est très douloureux de s'avouer qu'on n'est pas capable, on n'y arrive pas. Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, l'avouer à d'autres gens, c'est difficile. Moi, généralement, j'arrive à l'avouer à peu de personnes ou alors quand j'ai commencé un peu à digérer le processus. Et donc, voilà, parler à un inconnu, d'Hervé, les psys, il y a un déballage. Alors, ils disent, je ne parle pas du tout d'habitude, je suis hyper bavard. Ça m'arrive souvent, je suis psy.
Mais ce qui me fait rebondir sur le fait qu'il y a justement l'écriture de ce bouquin, synthétiser tous les messages que tu y as mis, qui sont très forts, nous offrir tous les outils, parce qu'il y a énormément d'outils pour justement dépasser certains blocages, certaines peurs et s'aimer et se trouver. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça de tout ce que tu as...
Expérimenté.
J'ai l'impression que le livre est le début d'un chemin que tu peux emprunter parce qu'on sent que tu as beaucoup à partager et qu'on sent que ça ne peut pas s'arrêter sur ce livre-là. Ça continue un peu sur les réseaux sociaux. Mais comment tu voudrais formaliser tout ça? Où est-ce que tu penses que ça peut t'amener?
Alors moi, je cherche toujours ce que je dois faire. Quel est mon chemin de vie? La conclusion aujourd'hui qui est très claire depuis un petit temps, c'est que j'aime l'humain. J'aime profondément l'humain, il m'inspire, il me fascine, il me touche beaucoup. Il y a des jours où je rencontre des gens et c'est comme si je sentais tout leur être intérieur, donc c'est assez touchant de pouvoir avoir accès à ça. Moi, mon cheminement, il est toujours en cours. Je continue à faire mes retraites, à essayer de mieux me comprendre. Je suis un être comme beaucoup de gens complexes, mais il y a des degrés de complexité qui quand même sont parfois interpellantes. Et donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir expérimenter à partir de moi, de ma vie, certaines choses, de les digérer et là, de les transmettre. C'est là où ça fait sens. Parce que je pense que si je dois faire une chose, c'est de la transmission. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui va créer un contenu spécifique. Je suis plutôt quelqu'un qui va aller chercher du contenu des gens qui sont très pointus ou qui ont fait un autre cheminement que moi. Mais je voudrais alors du coup faire descendre cette info aux personnes qui vont peut-être aller lire le livre, qui vont peut-être aller voir telle chose, faire telle retraite. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, comment tout ça va s'articuler, ça, c'est l'histoire de ma vie. Je ne sais pas encore. Je pense que j'ai encore beaucoup de peur et beaucoup de réticence à aller vers quelque chose qui est dans vraiment la création pure. Vraiment, c'est de l'ordre de l'inconnu. Et je pense que n'importe quel entrepreneur aujourd'hui comprendrait ce que je dis. C'est parfois, on a l'idée, mais après, l'idée, c'est... Après, il y a toute une structure, il y a le squelette. Et moi, ayant manqué de structure avec le départ de ma mère, j'adore me rattacher aux structures. J'adore me rattacher à quelqu'un. Tu veux pas faire un projet avec moi? J'ai toujours besoin qu'on me tende la main. Et j'ai toujours du mal à faire des choses toute seule. Sans doute peur de l'échec aussi, mais aussi, j'ai l'impression que en collectif, on est plus fort. J'aime la collectivité. Je suis profondément égoïste ou individuelle, mais j'aime la collectivité, j'aime faire. Donc, je pense que l'écriture, c'est quelque chose que je vais continuer.
Tu devrais, vraiment.
Merci. Je veux continuer l'écriture, mais je veux que ça ait du sens. Je n'ai pas envie de faire des livres finger food en disant... J'ai envie de faire un truc qui... Voilà, à nouveau, il y a quelque chose derrière. Et d'ailleurs, quand on lit mon livre, je conseille vivement de lire un roman à côté parce que c'est trop dense pour lire comme un roman cool, biographique. Il faut digérer ce qui est écrit.
C'est très confrontant, en fait. À travers ce que tu vis, il y a pas mal de souvenirs qui remontent. Et tu poses souvent de bonnes questions.
D'accord.
Et c'est un travail qui commence, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est un des rares livres que j'ai lus qui a continué à cheminer avec moi j'ouvre régulièrement. Oui. Quand je sens une faiblesse s'installer à nouveau, pour relire en fait des paroles d'un sage. Oh, donc quand je dis qu'il y a beaucoup de maturité et de sagesse en toi, c'est assez sincère.
Je suis très touchée. Mais je pense qu'en plus, c'est un livre qui... les gens qui sont des vrais écrivains savent qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. En fait, elles viennent et on est un canal et on écrit. Alors oui, il y a deux mois, mais après, il y a deux mois et puis des conclusions qui ne sont pas de moi.
Parle-nous de ton processus créatif. Comment ça s'est passé?
Alors, il y a beaucoup qui a été écrit. Donc, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a accompagnée en posant des questions, au moins, pour commencer quelque part. Et puis, j'ai accumulé beaucoup d'écrits. Moi, j'ai toujours eu des carnets où j'écrivais peut-être 5 pages et puis j'ai abandonné. Mais j'en ai comme ça des dizaines, des carnets au fil du temps. Donc, on a un peu rassemblé ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le livre parce que ça faisait pas sens. Et puis, il y a un travail d'écriture. Donc, vraiment, de savoir qu'est-ce que je voulais dire. Il y a des passages comme il y a l'avortement, par exemple. Il fallait savoir qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Je n'avais pas envie de raconter mon avortement. Ça n'avait aucun intérêt. Ce qui a intérêt, c'est qu'est-ce que ça a provoqué et pourquoi j'avais avorté. Parce que ce qui m'intéresse toujours, c'est de dire OK, il y a les blessures. Et comment elles s'infiltre dans notre vie. On pense que, oh, bon, ok, je connais mes blessures. Non, elles s'infiltrent partout. Donc, presque toutes les décisions dans notre manière de penser, elles sont là. Pareil, elle me disait, il n'y a pas beaucoup de choses sur ton père. Tu étais très discrète par rapport à ton père. Il y a beaucoup ta maman, pas ton père. Puis, à un moment, vient l'écriture de cette lettre. En fait, l'écriture, chez moi, ça a été très difficile de m'y mettre. Toujours du mal mettre. Mais, et donc, pendant les premières 45 minutes, une heure, j'écris, mais c'est pas terrible, quoi. Et puis, il y a un truc qui se passe. C'est la première fois qu'on rentre dans une dimension de l'écriture.
Tu rentres dans ton flow. Hein.
Ah, ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et là...
Ça commence. Hein.
Ça commence. Et là, on rentre dans le vrai ouais. écrit. Là, ouais. Avant, c'est un peu du brouillon, quoi. Ouais. Et on rentre. Et quand on rentre, là, il y a des choses extraordinaires. Et c'est ça que je dis que, oui, c'est mon histoire en partie, mais il y a beaucoup de choses. C'est pas moi, en fait. C'est des transmissions. Et Paulo Coelho le disait très, très bien, le livre qu'il a fait, Alchimiste. Quand vous écoutez l'interview de lui, il dit, en fait, c'est pas vraiment moi. Il dit, j'étais un canal et j'ai reçu quelque chose. Et ça, c'est avoir pour moi beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que parfois on dit, c'est moi, mais oui, c'est moi fondamentalement, mais en fait, je suis un canal. Mon histoire, c'est moi. Alors, c'est vrai que quand j'écris par rapport à ma mère, ça, c'est les seuls passages où j'ai du mal à relire, parce que quand je l'écris, ça vient toucher le cœur d'une émotion qui est toujours très vive. C'est-à-dire que quand je touche à un passage très précis où je parle de ma mère, où je vais la voir à l'hôpital et j'ai besoin d'argent et qu'elle me donne son argent. À ce moment-là, quand on sait qu'elle allait partir, c'était très douloureux. Et quand je le relis, c'est toujours là. Donc, oui. C'est, pour moi, ça résonne très juste.
J'ai versé une larme.
Ah, ben moi, je ne peux pas trop en parler parce que ma gorge se noue. Et c'est là où on me demande, est-ce qu'on fait un jour le deuil de quelqu'un de si proche et important? Et je dis non, on ne fait jamais le deuil. Mais on cohabite avec ce manque. Le temps fait qu'on oublie les dates d'anniversaire, les dates de décès. Mais parfois, on se rappelle d'un truc à un moment complètement inopiné. Mais on ne fait jamais le deuil, et je le sais, parce que quand je relis ça, les mots sont justes pour moi, et ça ne fait que me replonger à un moment où ce n'est pas refermé. Et d'ailleurs, je sens mon chakra de la gorge qui se noue. Mais donc, je pense que je vais continuer dans l'écriture, mais ça doit faire sens. Je voudrais vraiment être au service des gens. Je ne sais pas encore quelle forme. Donc, c'est « work in progress », mais c'est mes peurs. Peur de structure, peur de faire des choses seules. Et ça, c'est mon apprentissage.
Oui. Mais le chemin te mettra peut-être les bonnes personnes.
Sans doute.
Les choses se mettront en place. J'en ai aucun doute non plus. Dis-moi, j'ai encore deux questions pour toi. Si tu avais l'opportunité de donner un conseil à Tatiana d'il y a 10 ans, 15 ans, lequel est-ce que tu lui donnerais?
Ah, je lui dirais juste, apaise-toi, ça va aller. Ça va aller. Je sais que tu es en souffrance, que c'est dur, que tu luttes, que tu te démènes, que tu résistes. Apaise-toi, ça va aller. En fait, tout ce à quoi tu aspires est en train d'arriver. La difficulté dans mon parcours, c'est que quand on a un parcours un peu hors norme, quand je dis hors norme, ça ne veut pas dire que c'est un parcours extraordinaire.
Okay, oui,
je veux
atypique.
Dire, atypique, exactement. Quand je dis hors norme, c'est pour le côté atypique. Il n'y a pas plus que ça.
Quelle humilité.
Non, mais c'est parce que je veux...
Tu es regardée par des millions de personnes.
Non, mais il faut parce que le hors norme, il faut qu'on mette un truc juste. Je ne sais pas d'accord. Ce que les gens définissent comme hors norme. Ce que je veux dire, c'est différent. Un parcours très différent de des gens qui ont un parcours plus classique. Je ne parle pas de vécu d'histoire. C'est vraiment parcours, etc. Et il y a des choses auxquelles j'aspirais. Par exemple, j'aspire à être maman, par exemple. Je ne suis pas encore maman. Et parfois, je m'impatiente et je me dis, mais l'horloge biologique tourne, il faudrait, etc. Et donc, il faut trouver le calme, vraiment calmer, dire les choses arrivent, sauf qu'elles n'arrivent pas dans l'ordre que tu te l'imaginais, elles n'arrivent pas dans l'ordre de tes amis qui ont un parcours peut-être un peu plus classique ou plus de la majorité, on va dire, des gens. Et tu dois l'accepter. C'est comme ça, tu dois accepter que c'est un parcours différent. Et donc, tu feras des choses dans un autre sens que les autres. Alors, il y aura une butoir limite, par exemple, pour les enfants, mais même pour se réaliser, peut-être que tu te réaliseras complètement et tu trouveras ton cheminement à 40 ans, 45, t'en sais rien, mais accepte-le. Et donc, celle d'il y a 10 ans était très angoissée, et là, parfois encore aujourd'hui, sur « mais il faut que si, et comment ça se fait que c'est pas encore là ?» S'apaiser, en fait, tout est parfaitement juste. Tout est juste. Moi, je suis pas quand je prends un peu d'auteur, je me dis, en fait, ça va, je pars en voyage, je rencontre des belles personnes, j'expérience de belles choses, je travaille avec des gens qui sont agréables. En fait, tout va bien, quoi. Mais à un moment donné, on prend un petit truc qui nous convient pas et là on le monte comme ça, oui, comme une bonne, une belle chantilly comme, oui, ça, qui, et on dit mais calme-toi. Donc celle d'il y a 10 ans, je dirais mais calme-toi, en fait tout va aller, tout ce que tu désires et souhaites va se réaliser, laisse juste les choses se faire à leur rythme, pas ton temps. Ton temps n'a aucune importance. Ce que toi, tu as décidé de ton temps, de ton timing, n'est pas une réalité. La réalité, c'est celle que l'univers a décidée. Et dépendra aussi des choix que tu feras, évidemment, et du travail que tu feras sur toi. Donc voilà, et je l'appelle encore très souvent, je suis en méditation, et je vais la voir et je lui dis, calme-toi. S'il te plaît, ne t'angoisse pas, ça va aller.
Mais justement, tu viens de parler de l'univers. C'est en off, tu me disais, mais Yvette, tu n'as pas demandé quelque chose,
oui,
à l'univers. Et demander à l'univers, qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais c'est clarifier déjà ce que l'on veut. En fait, l'univers, moi je dis toujours l'univers, il conspire constamment à nous donner ce qu'on veut. Sauf que moi je me souviens, parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois, c'est que quand on ne définit pas ce qu'on veut clairement, par exemple, on dit « je veux une relation ». Je veux une relation, je dis ça parce que ça peut parler à tout le monde, c'est, oui, plus facile. J'ai envie d'une relation. Ok, donc tu veux être en couple. Mais non, oui, à des moments on veut pas. On dit non, je suis bien célibataire. Okay, d'accord. Quand tu définis, je veux être en couple, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ok, mais après t'as pas précisé qui tu voulais rencontrer, quoi. T'avais rencontré quelqu'un. Et donc oui, il y a un truc qui déclenche quand même pour que ça soit une relation amoureuse, sinon c'est un ami. Mais après tu dis, ah, mais il y a ça qui va pas, ou ça c'est compliqué, ça c'est important pour moi. Il faut définir.
Est-ce, en fait, que, oui. Est-ce que as-tu été spécifique dans ta requête?
Exactement, il faut être spécifique. Mais on peut le faire pour le job. J'ai envie d'un nouveau travail, un nouveau comme ça, parce que tu vas avoir des propositions, tu dis oui, on me propose, mais c'est jamais ce que je veux. Mais est-ce que tu as défini ta pensée? En fait, il faut définir et clarifier, il faut élaguer, s'asseoir et dire qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? On peut le faire mentalement, le mieux c'est de le faire par écrit, faire d'abord des sortes de colonnes, et puis après, quand on a colonne, on définit. Quand on a défini, eh bien dire voilà, j'ai défini l'univers. C'est vraiment une sorte de communication interne avec soi, on peut le faire à haute voix ou à intérieur, et dire voilà, je veux ça en fait. Je pense que ça irait. Et normalement, si c'est aligné, si on a fait le travail de connexion, que c'est aligné, c'est pas un désir de dire je veux être riche. Quand je veux être riche, c'est un peu dénué. Il faut quelque chose de précis et de réfléchi. Et quand c'est aligné, on le sent. Et quand on fait, moi j'ai fait des demandes très précises, elles étaient alignées, elles se sont réalisées. C'était incroyable, mais elles étaient alignées. Parfois je fais des demandes, je dis oui, ok, je sens que c'est pas très aligné, je le fais quand même. C'est comme quand on a un cil qui doit tomber, oui, et on nous demande vite de faire un vœu et on est pris, oui, on est pris au dépourvu et on fait le vœu.
On baragouine
un, oui, truc. Oui, baragouine. Pas vraiment ça qu'on devait faire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir et savoir. Et c'est pour ça que le travail, le cheminement de développement personnel ou de spiritualité, c'est être connecté à soi. C'est toujours être en connexion pour que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est toujours relié à soi. Alors évidemment, c'est un déséquilibre et un équilibre en permanence. Hein, on perd et on retrouve. Mais donc voilà, c'est faire des demandes précises. Et quand on fait une demande, ben, y a toujours une réponse. Parce que constamment, il nous envoie des solutions. Sauf qu'il ne nous envoie pas. Il dit, bah, dans ta tête, tu dis, oui, pourquoi pas ça, pourquoi? C'était pas très clair, donc moi, je t'envoie à la volée. Et au final, tu dis, non, en fait, je préférais ça. Ah, tu préfères ça. Ok, maintenant, c'est clair. Maintenant, je peux travailler et œuvrer pour t'envoyer les bonnes personnes pour aller vers ce cheminement. Donc, quand on est dans le doute et qu'on ne sait pas, soit on demande à l'univers de clarifier la pensée, d'envoyer un signe pour clarifier. Parfois, on peut demander, envoie-moi un signe que je peux comprendre, qui est très clair. Et on laisse tomber, on oublie, et le signe arrive. Bon, parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le pont entre la demande et le signe qui est arrivé. Bon.
Ça veut dire quoi, faire le pont ?
C'est-à-dire que faire la corrélation. Là, j'avais, okay, une amie qui m'a dit, j'ai fait une demande précise, et elle a su, quand elle a eu une nouvelle, l'univers ne descend pas en disant, oui, ma réponse est donc ceci. C'est pas comme ça. C'est parfois un mot, c'est parfois peut-être une plaque d'immatriculation, ou parfois on lit un article. Mais il faut être connecté pour dire, ah, j'ai vu. Parce que, en fait, l'univers nous envoie constamment des signes. On les prend pas, en fait. On les prend pas, on dit, oh non, souvent on dit c'est le hasard. Ça, j'aime beaucoup. Non, c'est du hasard. Ah, ok, c'est du hasard. Donc là, il a un peu plus de mal. Il doit envoyer plus de signes ou de signaux. Et parfois, des gens qui captent très vite, ils disent, j'ai fait une demande. Et comme par hasard, aujourd'hui, telle personne m'a appelé. Mm-hmm. Ah, ok.
C'est vrai qu'il y a des synchronicités qui sont assez affolante, quoi. Tu te dis, c'est
clairement,
c'est dingue, oui.
Si on commence à y prêter attention, oui, voilà. Alors c'est pas l'idée de se dire de tout interpréter, mais quand on fait une demande très claire ou qu'on pense à quelqu'un, synchronicité, juste de penser à quelqu'un. Moi, pendant j'ai ça, je pense à quelqu'un, j'envoie un message, je fais pas. Puis cette personne m'appelle, je me dis mince, tu m'as devancé, j'allais te l'envoyer. Mais je dis bon, tant mieux, on s'est connecté. Donc les signes, ils sont toujours là, constamment. C'est notre capacité à les recevoir et voilà. Donc peut-être un peu moins cartésien parfois. Ouvrez, mmh, le spectre. On ne vous demande pas de croire en tout, mais ouvrez le spectre, le champ du possible. Et on est plus enclin à y croire quand un défunt est décédé. quand un défunt est décédé, on est plus vulnérable, on baisse les barrières du mental et des protections, et quand on voit quelque chose qui pourrait être un signe de, je crois que c'est lui qui est venu me rendre visite, on accepte. C'est bizarre, pour ça on accepte, mais pas pour le quotidien. En fait, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste qu'on a beaucoup plus de certitude quand on n'est pas vulnérable. Donc là, on se dit, bof. Oui, bon.
Hein? Oh là là, mais je pourrais t'écouter parler des heures et des heures. Dis-moi, c'est une question que je pose à la plupart de mes invités. Pour toi, dans quelques années, si tu te retournes en arrière et que tu es dans une position où tu as réussi ta vie, à quoi ressemblerait ta vie? Pour toi, c'est quoi la réussite?
Pour moi, la réussite, elle est très variable. Parce qu'on peut aujourd'hui... en fait, ça me fait beaucoup relier à l'impermanence de la vie. Donc, si on est dans l'impermanence et qu'on n'est pas figé, ça veut dire que la réussite, quand on avait 20 ans et qu'on l'atteint à 30, 40 ou 50 ans, peut-être change. Il y a plein d'hommes comme ça qui réussissent, ou d'hommes ou de femmes qui sont des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont atteint un seuil financier assez élevé, qui se sont achetés la maison de leur rêve, peut-être une voiture ou des voyages. Et quand ils ont atteint ça, ils ont compris qu'en fait, c'est pas ça la clé de la réussite, c'est pas ça en fait réellement. Ou c'était ça qu'ils ont voulu, ils l'ont expérimenté, mais c'était pas ça que la réussite. Et ils migrent et ils mutent vers autre chose. Donc la réussite, c'est de chaque fois être en... authentique vis-à-vis de moi-même. Si j'arrive à me respecter à chaque fois et d'être authentique, c'est parfois difficile parce qu'il faut faire des compromis. Parfois, on n'est pas bien dans son boulot, mais on doit le garder parce qu'on se dit, bah, financièrement, ça paye les factures. Il y a plein de gens qui sont dans ce genre de circonstances. Parfois, on se dit, bon, en fait, je sais ce que je devrais faire, mais je n'ai pas encore la force et le courage, je n'ai pas encore la confiance, je n'ai pas encore l'élan. Voilà, c'est avoir l'humilité d'accepter qu'on est aussi dans des moments faibles et qu'on ne sait pas toujours le faire. Donc, la réussite, c'est pour moi être authentique et à me respecter dans ce que je suis, à mon intégrité personnelle. Et puis, arriver à me remettre en question encore et encore. Parce qu'on se remet parfois en question, puis après on stagne. Après, on ne remet plus. On a beaucoup de certitudes, on repart, et puis il faut... Bonne claque. Allez, il faut que je me remette. Et voilà, me remettre en question. Et la réussite...
C'est déjà pas mal tout ça, non?
Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, ce que je voudrais conserver... Ça, c'est une chose qui sera peut-être permanente pour moi, c'est conserver ma connexion avec l'univers. C'est elle qui est salvatrice pour moi, c'est elle qui me porte, c'est elle qui m'ouvre des portes, c'est elle qui sèche mes larmes. C'est vraiment elle qui m'accompagne dans tous mes choix, dans tous mes déboires. C'est elle qui n'est jamais déçue. Moi, je suis souvent déçue de moi, mais elle n'est jamais déçue. Elle me dit toujours, mais en fait, nous, on t'aime, quoi. Moi, je cherche l'amour inconditionnel partout. Et le seul à pouvoir me le donner, c'est vraiment cet univers. Alors, les gens aussi, d'une certaine forme, mais il y a toujours un moment où il est conditionné. Donc, du coup, voilà, ma réussite, c'est de rester proche de moi, de cultiver ma spiritualité, mon pilier et l'authenticité. Voilà, de ne pas me fourvoyer, de ne pas me perdre dans des choses qui ne sont pas moi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais moi, je trouve que c'est souvent de l'or. J'adore, c'est une pivoleuse. J'adore tout ce qui brille. Donc, faut pas que. Parfois, je trouve que ça miroite comme ça. Et je me dis, ah ! Et je dis, non, c'est vrai, c'était pas de l'or.
Et au tout début de ce podcast, je t'ai demandé quel est le message que tu voulais transmettre avec le titre Tout commence par soi.
Oui. Tout commence par soi, c'est... Il aurait dû s'appeler, en fait, Le meilleur reste à venir. Parce que je pense que pour moi, D'accord. Le meilleur reste à venir. Et puis, en cours de route, j'ai fait un live que j'ai appelé Tout commence par soi. J'étais au Cap Vert. Et je me dis, mais non, c'est ça en fait. D'abord, tout commence par soi. Tout commence par soi, par son enfance, par nous. On ne peut pas aller chercher à l'extérieur les solutions, même les problèmes. En fait, c'est d'abord soi, tout soi. Et je pense qu'on l'a tous remarqué à un moment donné, quand quelqu'un rayonne, on a envie d'être près de cette personne, on a envie d'absorber sa lumière.
Oui, c'est pour ça que je me rapproche de toi.
Mais je pense que c'est pareil pour toi. Je pense que les gens, tu les apaises et donc ils ont envie d'être près de toi. Et ça, c'est quand on a des... Parce qu'on a tous des passages comme ça. Hein. On est parfois moins lumineux et moins rayonnant. Mais quand on est rayonnant, on attire les gens. Et donc...
Il y a une forme de magnétisme.
Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, il faut faire attention. Les gens qui sont très lumineux, très gentils, très... Parfois, ils sont trop dans la générosité. Et il y a des gens qui leur pompent leur énergie, littéralement. Des gens qui, eux, ne veulent pas du tout avancer, travailler parce qu'ils n'ont pas l'énergie de travailler sur eux. Ils préféraient juste... aller s'abreuver à la lumière de l'autre plutôt que de créer leur propre lumière ou de polir pour que leur lumière rejaillisse plutôt. Donc tout commence par soi, c'est assez simple, c'est vraiment si chacun d'entre nous, on travaille sur soi, on nettoie sa propre maison, la lumière va commencer à briller et du coup, ça va être un rayon magnifique, mais il sera pour soi, mais pour les autres. Et puis les autres aussi rayonneront. C'est quand même très beau quand il y a la lumière, quand les nuages se dissipent, pour ne pas faire une analogie avec mon métier, mais quand même, je dois. Quand le ciel plombé se dissipe et qu'on voit ces rayons qui passent à travers et puis qu'on voit que la lumière, on la voit arriver. Donc voilà, moi, cette phrase m'a porté toute ma vie, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gandhi ». C'est vraiment, ça commence par soi et c'est valable pour tout. Pour l'écologie, pour la bienveillance, pour l'amour. D'abord, soi. Regarde ta propre coupelle, ta propre assiette. Regarde avec quoi tu remplis ta propre coupe. Si elle est trop pleine, va la vider. Tu ne peux pas recevoir. Impossible de recevoir ce que les autres ont à nous donner si on a trop de certitudes, si on a trop de convictions, de tout, en fait. Un peu déversé. Laisse les choses rentrer, mélanger. Il faut qu'il y ait du renouveau, quoi.
Magnifique. Mmh. Ah, je suis touchée, je suis émue.
Ouais, moi aussi.
Et on termine avec la phrase essentielle. Donc, pour toi, Tatiana, l'essentiel, regarde tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont tu te projettes dans le futur. L'essentiel, c'est de...
C'est d'aimer. D'aimer. Quand t'aimes, en fait, quand t'aimes et que t'as l'amour, ça te porte haut. Quand tu te connectes à quelqu'un et que tu as cette empathie, cette connexion, donc tu as de l'amour, donc tu es capable de tout faire, tu es capable de soulever des montagnes. On l'a tous ressenti, ça, l'amour d'une mère pour un enfant, elle sait ce que c'est, elle peut soulever des montagnes pour son enfant. Quand tu es amoureuse, alors peut-être après 20 ans, enfin un peu difficile, mais peut-être se remémorer des moments où on a cet élan d'amour et on peut tout faire. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'amour, vraiment.
C'est fou, hein. Nous les femmes, on est amour,
ouais.
Et pourtant on est la dernière personne...
Qui
reçoit tout cet amour qu'on est capable de donner. C'est fou. Hein.
Je pense que ça, c'est l'incapacité à pouvoir accepter son rayonnement, tu vois, à pouvoir accepter qu'on est digne d'être aimé. Donc, c'est comme s'il y avait une passoire qui filtrait beaucoup et qu'il fallait beaucoup, beaucoup de gens qui passent pour dire « Ok, je pense que je suis aimée ». Donc voilà, moi, je pense que l'amour... Alors, je sais que c'est hyper bateau, mais l'amour, il faut... Si vous pouvez vous connecter à ça, c'est aller rechercher les sentiments, les élans amoureux. L'amour pour un enfant qui vous explose le cœur et vous voyez ça, un homme que vous voyez en rue et qui vous touche profondément et vous avez envie de l'aider, ça c'est de l'amour, c'est de la connexion de cœur.
Et puis l'amour pour votre communauté.
Ah ben oui,
quand je vois la belle communauté qui gravite autour de toi et tout cet amour que tu partages, ce temps que tu donnes, c'est...
Il y a beaucoup de gens bienveillants.
Oui.
Ça, c'est la bienveillance. Moi, j'ai longtemps manqué de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Et j'avais une amie qui me parlait beaucoup de douceur. Elle me dit, mais tu devrais être plus douce avec toi, Tatiana. Et elle avait tellement raison. Cette douceur était difficile. C'est comme si la dureté de la vie m'avait rendue tellement dure que je ne pouvais pas être douce, quoi. Ou que la seule personne qui pouvait être vraiment douce avec moi, c'était ma mère ou quelqu'un, et puis qu'elle n'est plus là, donc du coup, moi, je n'avais pas le droit à cette douceur. Donc, douceur et bienveillance, être bienveillant, on peut tout dire. On peut tout critiquer, avoir un avis, surtout on peut, mais bienveillance. Toujours amener au fait qu'on n'est pas en train de toucher à la quintessence de l'autre, on ne remet pas en question. Tu es digne d'être aimé, tu es digne de faire ce que tu fais. Juste ça. Ça pourrait être différent, ça pourrait être mieux, mais ça ne remet pas en cause tes capacités à cuisiner, à écrire, c'est juste ça. Et quand tu dis ça avec bienveillance, non mais c'est extraordinaire, c'est que la personne a des outils pour avancer et elle n'est pas enrayée par des peurs de « on m'a critiqué, on m'a attaqué dans quelque chose qui est tellement personnel ». Donc quand vous avez des choses à dire, vous pouvez tout dire, bienveillance. Et posez-vous la question si jamais vous l'auriez dit de la même façon à votre fille ou à quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est important de se mettre à la place de l'autre. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Et l'hypersensibilité, on la découvre depuis peu. Et elle existe, c'est pas frivole, elle est là.
C'est quoi l'hypersensibilité ?
C'est des gens qui sont touchés plus fortement par les émotions, par ce qui les entoure en fait. C'est-à-dire que leur curseur est beaucoup plus élevé. Ils ont peut-être moins de carapace. On a peut-être l'impression qu'ils ont une carapace, mais en réalité, ils reçoivent. Enfin, ils ont construit une carapace pour pouvoir protéger ce qui est... C'est un peu comme une plaie ouverte en permanence. Alors du coup, on met un sparadrap, mais si on appuie dessus, mon Dieu, ça fait terriblement mal. Donc
voilà. Tu es hypersensible, alors ?
Je ne sais pas si moi, je me considère comme hypersensible. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui l'ont découvert, enfin, et ça les a soulagés parce qu'ils disent, OK, je n'ai pas une problématique. J'ai une singularité, on va dire. Et c'est important parce que quand on sait que des gens sont hypersensibles ou qu'on ne le sait pas, la bienveillance fait qu'on sait ou on ne sait pas, on ne fera jamais de faute pas. Parce que si la personne n'est pas hypersensible, elle recevra plus ou moins bien l'information. Si elle l'est, par contre, ça peut vraiment la détruire.
C'est vrai. Voilà, mais on est au bout de ce podcast, mais j'ai quand même une petite question qui me brûle les lèvres.
Oui.
J'ai lu ton livre avec beaucoup d'attention. Il y avait cette lettre de secours.
De mon meilleur ami,
Steven. De ton meilleur ami. Et je ne sais pas si tu... Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que tu l'as lu ?
Non, absolument pas.
Comment est-ce qu'il a réussi à l'insérer dans le livre et que tu ne l'aies encore jamais lu ?
Alors, il me l'a envoyé par mail. Je l'ai pas lu. Je l'ai transféré à la personne qui a structuré mon livre. J'ai dit, lis pour voir si... j'avais briefé, je l'avais dit qu'est-ce que c'était. Donc mon meilleur ami Steven est quelqu'un qui a imaginé, qui a créé mon futur pour moi, qui a toujours eu les mots pour m'apaiser, surtout au niveau professionnel. Il m'a toujours beaucoup apaisé. C'est rare et précieux d'avoir quelqu'un d'aussi aimant et qui crée un futur pour soi. Quand nous, on ne croit pas qu'on est capable, et quelqu'un qui nous le dit, et qui nous le dit tellement bien et tellement de fois, qu'il a créé, il a vraiment créé mon futur et je lui dois beaucoup. Et je me suis dit que dans les exercices d'outils, il y avait des choses que j'avais utilisées, puis m'est venue l'idée de la lettre de secours.
Et tu peux nous dire vite ce que c'est ? Enfin, moi, sais, mais...
La lettre de secours, c'est en fait dans l'écriture du livre et puis dans l'élaboration des outils. Donc, les outils, c'est transmission de ce que j'avais expérimenté, mais j'ai aussi mis des outils qui n'étaient pas ceux que j'avais expérimentés, mais qui pouvaient être des alternatives à ce que moi, j'avais déjà expérimenté à nouveau. Et donc, m'est venue l'idée de cette lettre de secours. Donc, j'avais eu cet ami qui a toujours été là, en fait, quand je l'appelais. Il était là et puis il avait les mots, quoi. Il avait les mots justes, les mots pour me requinquer, me rebooster, me redonner confiance, pour sécher mes larmes et pour créer ce futur. C'est lui qui disait, mais tu devrais être en France. Et je lui dis, mais ça n'y arrivera jamais. Moi, j'osais même pas rêver à ça, par exemple. Et c'est lui qui l'a vraiment créé pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas demander à une personne, donc inviter les gens à demander à la personne qui a toujours eu les mots, quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui aura les bons mots quand on serait en détresse et que ces personnes soient plus là parce qu'elle est décédée, soit parce qu'elle n'est pas joignable, elle n'est pas là, de nous écrire une lettre. Évidemment, il y a une intemporalité dans la lettre parce qu'on ne sait pas quelle est la problématique, mais qui pourrait nous apaiser. Et donc, il a fait l'exercice et je lui ai dit, il faut que tu fasses l'exercice correctement parce qu'elle va être publiée, donc tu auras une certaine pudeur, mais tu dois écrire des choses qui sont importantes pour moi parce que je vais l'utiliser. Et donc, cette lettre, elle a été lue par les gens qui devaient la lire pour la vérifier, mais elle a été publiée telle qu'elle et je ne l'ai jamais lue, non.
C'est un joyau.
C'est vrai, vraiment. Ok, merci.
Tu as quelqu'un dans ta vie d'extraordinaire.
Je l'aime d'amour, c'est vraiment quelqu'un, je lui dis... au moins deux fois par mois, je lui fais des déclarations, je l'aime tant, j'ai la chance d'avoir cette personne qui est précieuse. Non,
cette lettre est chargée d'amour, chargée de respect, de douceur, de bienveillance. Enfin, moi, je l'ai lue, je pense, une dizaine de fois. C'était pas la mienne, mais...
Mais on peut la prendre. En fait,
je l'ai prise à bras-le-corps.
Elle m'est adressée, mais quelque part, moi, je ne l'ai pas lue. Donc, en fait, finalement, est-ce qu'elle n'est pas plus adressée aussi aux gens qui vont la lire ? Mais clairement, je ne l'ai pas lue. Donc, elle a été publiée et je prends mon livre parfois en main. Mais voilà, elle a été écrite aussi dans une couleur pour que moi, je ne sois pas... Et donc, non, et je ne la lis pas. Et, et tant qu'il est là, il est là. Donc, il est là, je l'appelle.
Oui.
Mais il voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui...
Il ouvre une fenêtre, sans en dire trop, il ouvre une fenêtre sur toi qui nous permet de voir la belle personne que tu es. Donc merci pour ce moment qu'on vient de partager.
Merci, on aurait pu faire un podcast de 3 heures.
Ah non, mais moi...
On en refera d'autres. On en refera d'autres sur d'autres.
Mais là, on a vraiment l'essence. Merci pour ta générosité.
Non, avec plaisir.
Merci pour ce partage en toute sincérité.
Merci de proposer ça.
Et voilà.
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à nouveau, je le dis, on fait tous partie de cette même grande chaîne super belle. Et quand il y a un maillon qui vient à manquer, c'est compliqué parce qu'il y a une cassure. Donc les gens, on œuvre tous pour la même chose. Et donc faire ça, ce podcast, moi je me réjouis parce que du coup, je vais pouvoir le faire écouter aux gens. C'est bien, ça me fait très plaisir. Moi qui ne suis pas trop active pour l'instant, c'est bien. Les gens vont écouter et puis ça va les inviter à écouter d'autres choses, à être inspirés parce qu'il y a des thématiques qui sont chaque fois différentes. Et parfois, on a une thématique qui est vraiment purement professionnelle. Donc, aller écouter des gens qui sont dans un business et qui ont rencontré des difficultés, c'est ce que tu proposes. Donc, moi, je trouve que c'est génial. Donc, merci pour l'invitation. Merci pour la patience et la persévérance.
Avec grand
plaisir. Parce que ça...
Non, mais moi, je crois aussi au bon moment, tu vois.
Oui.
Je pense que toute chose arrive en temps et en heure. Et donc, moi, j'aime pas trop forcer.
Non, mais elle a été cool, ouais. Faut dire quand même que ça, c'est vrai, très cool. Parce que je me mettais une pression, je suis là, mon Dieu. Et en fait, c'est vrai que tu es très cool. Ah, mais c'est comme ça que je suis. Je me mets une pression, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut être dans ma tête parfois. J'aimerais bien que les gens soient dans ma tête et se disent, oh mon Dieu. Parce que, bon, j'ai un peu particulière pour certaines choses. Mais en tout cas, plus sérieusement, c'est vrai que je fais peu de podcasts. On me demande souvent et je
m'étonne.
Et je suis.
C'est un média qui est tiré à merveille.
Oui. Mais on verra peut-être, oui, mais surtout on m'invite à faire. Okay. Et surtout dans ce sens-là, en tout cas, j'en fais peu. Et je suis très contente parce qu'en fait, ça m'intéresse. très peu de faire un podcast où je ne peux pas avoir la liberté de ton. Quand j'ai toujours la liberté de ton, mais la liberté de ton, elle vient aussi avec l'interlocuteur à nouveau. Hein. C'est hyper, c'est des énergies. Hein. J'ai des gens qui t'insufflent une énergie qui se multiplie. Puis des autres où ça, tout est fermé. Quoi. C'est presque des questions oui ou non. Je caricature. Donc, merci à toi. J'espère que tu ne couperas pas cette partie-là. Merci à
non,
toi,
Yéba. Non, je ne couperai pas. Okay, je ne couperai rien, si tu veux.
tu coupes ce que tu veux, mais pas la fin, au moins, où je peux dire des choses que je pense aussi très, très sincèrement. Bon, je vous laisse. Ciao.
Ciao, ciao. Merci.
Merci.
À bientôt. Au revoir. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine. À bientôt.